Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Bernard de Cotigny.
Le pape François a une nouvelle fois adressé un salut chaleureux aux musulmans ce dimanche lors de l'Angélus, place Saint-Pierre, pour la fin du Ramadan, en appelant en parallèle les chrétiens à donner la priorité à l'amour. Dans ce magazine, nous ferons la part belle à l'Afrique en parlant de ce dialogue interreligieux avec les musulmans. Nous parlerons notamment du Nigeria avec un message des évêques et du Niger avec comme invité Mgr Laurent Lompo, l'évêque auxiliaire de Niamey. Dans la seconde partie de ce magazine, une rediffusion estivale d'un invité du dimanche de Sœur Catherine Aubin, Michel Roy, l'actuel secrétaire général de Caritas Internationalis. Lors de la prière de l'Angélus récitée place Saint-Pierre ce dimanche, le pape s'est appuyé sur l'évangile du jour, Luc 12, 32-48, dans lequel il est question du désir de la rencontre définitive avec le Christ, un désir qui nous rend toujours prêts, avec l'esprit alerte, car nous attendons cette rencontre avec tout notre cœur, avec tout notre être. C'est un aspect fondamental de la vie pour le pape, un désir que nous avons tous dans notre cœur, qu'il soit explicite ou caché. Jean-Baptiste Cocagne.
Comme le montre l'évangile du jour, Jésus marche avec ses disciples vers Jérusalem et il les éduque en leur disant ce que lui-même porte dans son cœur, le détachement des biens matériels, la confiance dans le Père et la vigilance intérieure, l'attente du règne de Dieu. Pour Jésus, c'est l'attente du retour à la maison du Père, a précisé François. Mais pour nous, c'est l'attente du Christ lui-même qui viendra nous porter à une fête sans fin, comme il l'a fait avec sa mère, la Vierge Marie. Nous avons tous le désir d'aller de l'avant, a encore souligné le pape. C'est là notre trésor. Le souverain pontife a ensuite exhorté les fidèles à se poser deux questions. Ai-je un cœur qui désire ou un cœur fermé, anesthésié par les événements de la vie? Et où est mon trésor? Pour François, notre trésor, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui unit une famille, qui donne du sens aux engagements quotidiens et qui aide à affronter les épreuves de la vie. L'amour de Dieu n'est pas quelque chose de vague, a prévenu François. Il a un nom, Jésus-Christ. C'est un amour qui donne de la valeur et de la beauté à tout le reste, à la famille, au travail, aux études, à l'amitié, à l'art, à chaque activité humaine. Et le pape d'ajouter, l'amour de Dieu donne aussi du sens aux expériences négatives, nous permet de ne pas rester prisonniers du mal et nous porte vers l'espérance, nous fait passer à autre chose. Les péchés, les chutes et les fatigues trouvent aussi, ainsi, du sens.
Et le pape François a tenu aussi à rappeler que jeudi prochain, on célèbre la fête de l'Assomption. Pensons à notre mère qui est arrivée au ciel avec Jésus et fêtons-la, déclarait le pape, qui jeudi célébrera la messe de l'Assomption sur la place centrale de Castel Gandolfo à partir de 10h30. Une messe qui sera suivie par l'Angélus. Et puis le pape, dont je vous le disais ce dimanche, s'est à nouveau adressé à la communauté musulmane. Écoutons-le.
Vorrei rivolgere un saluto ai musulmani del mondo intero. Nostri fratelli.
Je voudrais saluer les musulmans du monde entier, nos frères, qui depuis peu ont célébré la fin du mois de Ramadan, consacré tout particulièrement aux jeûnes, à la prière et à l'aumône.
La preghiera e alle limosine. Come ho scritto nel mio messaggio per questa circostanza.
Comme je l'ai écrit dans mon message publié il y a quelques jours pour la circonstance, je souhaite que les chrétiens et les musulmans s'engagent à promouvoir le respect réciproque, spécialement par l'éducation des nouvelles générations.
Le pape souhaitait donc ce dimanche que chrétiens et musulmans se respectent mutuellement. C'est également le souhait du président du Nigeria. Nous en parlions déjà hier dans un geste de solidarité sans précédent. Goodluck Jonathan, chrétien, a jeûné pendant tout le mois de Ramadan pour exprimer sa solidarité avec la communauté musulmane. Un signal fort. Et pour le chef de l'État, il est tout simplement inimaginable d'avoir un Nigeria sans musulmans et chrétiens. Et selon lui, les Nigérians n'ont pas exploité à fond toutes les potentialités qu'offre cette diversité religieuse. Pour sa part, la conférence épiscopale du Nigeria a félicité elle aussi les musulmans du pays pour la réussite de la période du Ramadan, tout en les invitant à poursuivre la prière pour que le pays puisse surmonter ses défis. Ainsi, les évêques ont appelé aussi les hommes politiques et les partis politiques de tout le pays à faire preuve de
retenu et à tracer une nouvelle voie dépourvue de rancœur et de violence, un appel contenu dans un communiqué publié au terme de leur réunion à Oyun, dans l'état de Kwara, les 4 et 5 août derniers. Les évêques nigérians ont salué les efforts du gouvernement fédéral visant à mettre fin à l'insécurité. Ils ont toutefois déploré la poursuite de la violence dans certaines parties du pays. Ils rendent hommage quand même aux forces de sécurité qui risquent quotidiennement leur vie pour protéger les citoyens contre le mal et donc la violence. Afrique encore, avec le Niger, où les miasmes du printemps arabe, la pénétration des influences salafistes et wahhabites venues de la péninsule arabique, la guerre aussi contre les mouvements islamistes menés par la France au nord du Mali, notamment contre Acmi, mais aussi la présence de Boko Haram au Nigeria tout proche, tout cela représente une grave menace pour la stabilité du Niger. Le pays est à majorité musulmane, mais l'église du Niger est bel et bien vivante. Quelques 22 000 catholiques vivent au Niger, essentiellement à Niamey. L'église fait tout pour entretenir le dialogue interreligieux. Écoutez Mgr Laurent Lompo, l'évêque auxiliaire de Niamey. Il est au micro du père Bernardo Soité du programme portugais de Radio Vatican.
Au Niger, nous vivons, nous sommes avec les musulmans à 99%, comme je l'ai dit. Nous avons un dialogue franc avec les musulmans et nous vivons ce dialogue dans le concret. Parce que au niveau de nos écoles, au niveau de nos hôpitaux, au niveau de la CADEV, qui veut dire Caritas Développement Niger, dans tous les différents organes caritatifs et de développement, les musulmans sont présents et nous faisons des rencontres à la base pour que le chrétien puisse connaître la vie du musulman et le musulman aussi puisse connaître la vie du chrétien et cela fait un respect. Le pape, déjà en donnant le message cette année pour les musulmans, qui ne concerne pas seulement les musulmans mais qui nous concerne aussi en tant que chrétiens, le respect mutuel, il est important aujourd'hui pour que chacun puisse vivre sa religion et cette minorité, nous pensons qu'au Niger actuellement, nous ne sommes pas brimés. Les musulmans nous respectent beaucoup parce que les devanciers ont vraiment fait le pas en allant vers ces musulmans et aujourd'hui c'est une réciprocité. Et quand j'étais ordonné le 9 juin dernier en tant qu'évêque, le premier évêque nigérien, il y a eu plus de 200 musulmans qui étaient au palais de sport où j'étais ordonné. Cela a témoigné que le dialogue est franc et qu'avec les musulmans nous pouvons toujours composer pour que cette paix règne au Niger.
Et est-ce qu'on invite aussi des musulmans dans des fêtes chrétiennes?
D'abord, le représentant de l'association islamique est venu plusieurs fois à Noël prendre le micro dans l'église, souhaiter la bonne fête à tous les chrétiens et à Pâques aussi, ils viennent. On les invite, ils viennent et quand nous invitons aussi, ils viennent à nos célébrations et nous allons aussi chez eux pour les fêtes.
Le Saint-Père vient de publier son message pour la journée mondiale de la mission. Elle nous suggère de sortir pour partager sa foi avec le milieu où l'on vit. Est-ce que ça veut dire quelque chose au Niger, dans vos diocèses?
En prenant ce message, sortir de nos, si je vais résumer, sortir de nos églises en tant que telles, au lieu de se centrer seulement sur le culte, mais que nous soyons des hommes à l'extérieur, des hommes et des femmes vivant notre foi à travers ce dialogue. Au Niger, nous le faisons déjà et je pense que c'est le mois missionnaire sera encore un mois où nous ferons plus d'activités à rencontrer les autres, à pouvoir fraterniser pour que la vie ensemble, nous puissions vraiment refléter cette image que le Christ lui veut même pour son Église et pour le monde.
Et pour la seconde partie de ce magazine, une rediffusion estivale d'un invité du dimanche de Sœur Catherine Aubin, nous avons choisi Michel Roy, l'actuel secrétaire général de Caritas Internationalis à Rome. Nous revenons sur le parcours de cet homme atypique qui est spécialisé dans la gouvernance mondiale, le financement du développement, la promotion de la paix et les droits de l'homme. Nous revenons sur son parcours notamment au Secours catholique en France et puis sur l'importance surtout de Caritas Internationalis dans l'Église.
Michel Roy, vous êtes depuis plus d'un an secrétaire général de Caritas Internationalis. Vous-même, vous avez commencé en 1976 tout simplement comme bénévole. Quel souvenir vous avez de cette première année, ces années où vous étiez d'abord bénévole, puis ensuite salarié, puis ensuite vous êtes petit à petit, vous êtes entré complètement dans cette organisation?
J'ai connu le Secours catholique, je crois, avec la campagne des Kilomètres de Soleil. C'est une campagne d'éducation des jeunes enfants. Donc ça, c'était vraiment à l'école primaire. Mon engagement au Secours catholique en 1976 est dû à l'arrivée de réfugiés du sud-est asiatique. À partir, vous vous souvenez, avril 1975, la chute des trois pays qui formaient l'Indochine, donc Cambodge, Laos, Vietnam, et un flux massif de réfugiés, boat people, dans les pays de la région et puis ensuite jusque chez nous. Et le Secours catholique avait lancé un appel pour créer un réseau de familles d'accueil, donc des groupes de familles qui accueillaient une famille asiatique. À Paris, où j'étais étudiant, il y avait un certain nombre de mineurs non accompagnés qui arrivaient. Et le Secours catholique avait lancé une activité d'enseignement du français avec ces jeunes, mais aussi des activités culturelles et de loisirs. Et donc, je me suis engagé comme bénévole dans un groupe qui s'appelait, que l'on a appelé Amitié, Joie, Partage. Je suis parti au Burundi pour faire mon service national en coopération. C'était en 78 et j'en suis rentré en 80. Et j'ai fait cette expérience d'enseignement dans un petit séminaire qui venait d'être créé, tout à fait dans la campagne, très loin de la capitale. Et ça a été pour moi une expérience spirituelle très riche. Et quand je suis rentré du Burundi, j'ai voulu pouvoir redonner ce que j'avais reçu dans cette expérience. Et c'est comme ça que je suis rentré. Le Secours catholique délégation de Paris, donc au niveau du diocèse de Paris, m'a proposé un poste d'animateur tiers-monde, que j'ai accepté en pensant que j'y resterais quelques années, et puis voilà. Je pense qu'il faut être attentif aux signes qui sont posés par Dieu sur votre chemin. En regardant en arrière, on peut s'apercevoir qu'il y a eu des étapes. Et la dernière est sans doute celle qui m'a amené à Caritas Internationalis, puisque le président du Secours catholique, qui était le président du comité des candidatures pour l'Assemblée générale en mai 2011, m'a interpellé à la sortie de la chapelle du Secours catholique le mercredi des cendres en me disant « Est-ce que tu accepterais d'être candidat à ce poste de secrétaire général ?» Bon, je ne lui ai pas répondu dans la seconde, mais enfin, j'ai considéré que c'était aussi un signe.
Michel Roy, quels sont vos challenges, vos défis pour les années qui viennent? Et je crois que Caritas a de nombreux défis concernant la pauvreté. Vous pouvez nous en parler?
Oui, nous sommes dans une situation globale assez difficile, pour ne pas dire tragique. On voit dans nos sociétés du Nord combien le chômage croît et ce que ça entraîne comme pauvreté. Mais dans les sociétés du Sud, la crise globale, la crise financière et économique globale a aussi un impact très fort qui est mal perçu au Nord, mais qui est très réel au Sud. Cette année va être une année un peu décisive, l'année 2013. Les États-Unis, temporairement, avec la décision du Congrès de dernière minute, a permis à Obama de se lancer dans le plan qu'il a décidé, mais on sent bien que c'est extrêmement fragile. Et puis, c'est in fine une décision à très court terme. Et il faut voir la décision qui sera prise un peu plus tard cette année. Au niveau de l'Union européenne, qui est l'autre gros pôle économique mondial, nous ne sommes pas sortis de la crise non plus. Le chômage s'accroît. Je pense que ça risque de nous conduire dans des situations très difficiles. Si ces deux pôles s'effondrent, c'est l'ensemble de l'économie planétaire qui va se retrouver à plat. Je pense que le système actuel, qui a été fortement remis en question par la crise de 2008, n'a pas changé. Et qu'on est sur une voie qui nous mène dans un mur. Et que ce qu'on appelle système néolibéral, de capitalisme néolibéral, va s'effondrer. Le résultat, on le voit déjà dans les couches les plus pauvres de la population et qui s'accroissent un peu partout sur la planète. Même les pays émergents souffrent indirectement puisque la consommation des produits que eux produisent de plus en plus au détriment des autres pays producteurs ne trouve plus d'acheteurs. Donc, une inquiétude sur l'avenir. On sait que la crise n'est pas qu'une crise financière, économique et financière, c'est une crise de système. Et qu'on parle aussi de crise éthique. Donc, il y a une opportunité qui nous est donnée, je pense, à nous, Église, à nous, Caritas, aussi, de montrer des chemins, de remettre le monde à l'endroit, parce qu'il est construit aujourd'hui sur de fausses valeurs. Et on oublie la personne humaine. La personne humaine est trop souvent utilisée. Mais d'une manière générale, on a des pays en Afrique en particulier qui sont très riches, en ressources avec des populations très pauvres. Et plus on exploite les ressources et plus les populations sont appauvries. Donc ce système-là n'est pas un système qui permet le développement de la personne humaine. Il faut en changer. Mais on voit bien que les forces, les pouvoirs ne sont pas prêts à changer. Il faudra sans doute une crise plus forte pour qu'on repense à un autre modèle de société. On en voit déjà les prémices. Parce que les communautés humaines, quand elles se prennent en charge, elles montrent le chemin. Donc on sait que c'est possible, on voit que c'est possible. Et créer un environnement porteur pour permettre à ces communautés humaines de vivre mieux, il faut le faire. C'est possible. Et il faut que l'industrie financière arrête de penser qu'elle peut naviguer toute seule comme ça, sur le dos des autres. Il faut qu'elle se remette au service du développement des personnes et des communautés humaines. Il y a un enjeu inscrit dans le calendrier qui est qu'en 2015, on arrive au terme des objectifs du millénaire pour le développement. En 2000, les chefs d'État et de gouvernement réunis en Assemblée générale des Nations unies pour le sommet du millénaire avaient décidé que la pauvreté sur la planète était trop importante et que c'était inacceptable, scandaleux d'entrer dans le troisième millénaire avec une telle pauvreté, qu'il fallait la réduire au moins de moitié en 15 ans. C'était une belle déclaration avec des objectifs concrets, même s'ils ont été pensés en haut, ils n'ont pas associé les acteurs eux-mêmes, ils ont été pensés, mais ils ont donné des orientations utiles, je dirais simples, et simples à réaliser aussi. On a vu que l'ensemble des pays pauvres de la planète se sont mis en ordre de bataille pour essayer de faire diminuer la pauvreté dans le champ de l'éducation, de la santé, de la production alimentaire, etc. Et on est sur le chemin. Il y a des progrès qui ont été faits, mais on est loin du compte aussi parce que le contexte global, en particulier la crise, fait qu'on recule parfois au lieu d'avancer. Il y a encore 1 milliard de personnes sur la planète qui ont faim aujourd'hui. On était à 850 millions en 2000, donc la population a grandi, mais la pauvreté s'est accrue aussi. Certains chiffres vous diront que grâce à la Chine, à l'Inde, au Brésil, on va y arriver. Mais en réalité, je crois qu'on ne va pas y arriver, sauf sur certains objectifs un peu précis, comme l'éducation des filles. Mais globalement, la pauvreté sera encore là en 2015. Et le défi, il est de se projeter au-delà de 2015 et de dire quelle société voulons-nous aujourd'hui, demain. Et la crise nous pousse aussi à cette réflexion. Quelle société voulons-nous? De quelle société avons-nous besoin pour que chacun et pour nous les plus pauvres, qui ne doivent pas être considérés comme étant aux marges de la société, mais au cœur de la société, parce que c'est en fonction de la considération accordée aux plus pauvres, de leur humanité, que l'on peut jouer la valeur d'une société. Donc, autour des plus pauvres, quelle société, et avec les plus pauvres, quelle société voulons-nous? Quelle société veulent-ils, eux, être à leur écoute pour construire des programmes de lutte contre la pauvreté pour demain? Dans les dialogues que nous avons avec les institutions internationales, avec les Nations Unies aujourd'hui, il y a eu le sommet de Rio plus 20 l'année passée, et il y a d'autres opportunités, et Caritas Internationalis est reconnue par les Nations Unies comme un interlocuteur de premier rang, parce que ce réseau Caritas qui est partout présent sur la planète, dans les plus petites communautés, ce n'est pas du vent, c'est une réalité. Donc nous sommes sollicités pour participer aux réflexions menées par le secrétaire général des Nations Unies et l'institution des Nations Unies sur et après, l'après 2015. Et un des éléments pour nous, c'est demandons aux pauvres ce dont ils ont besoin, ce qu'ils veulent. Construisons des objectifs du millénaire ou la suite des objectifs du millénaire avec la participation des personnes et pas en leur disant c'est comme ça qu'il faut le faire. C'est un des éléments.
Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose?
J'ai participé comme auditeur au synode sur la nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi au mois d'octobre et la place de la charité dans l'évangélisation était au moment du début des travaux sur le synode tout à fait marginale. Les contributions des conférences épiscopales ont fait que le sujet est revenu parmi les vrais sujets. Mais il a fallu, un peu lutter pendant le synode lui-même pour que la charité retrouve sa place vraiment, que le témoignage dans la société soit vraiment perçu comme un outil d'évangélisation et pas seulement l'annonce de la parole. Et en tant que réseau Caritas, en tant que réseau d'église, si le Saint-Père a voulu donner cette personnalité juridique publique à Caritas Internationalis, c'est parce qu'il considère que Caritas est fondamental à la mission d'église.
Ainsi prend fin ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-nous sur notre site internet www.radiovaticana.va et sur Facebook à Radio Vatican en français. On se retrouve bien sûr demain, où que vous soyez.